Et c'est l'heure du journal présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. La justice autorise la sortie de Grâce à Dieu, le dernier film de François Ozon consacré à la pédophilie dans l'église. Le juge des référés estime que le réalisateur a donné les avertissements nécessaires au public. Les explications de Cécile de Kervas-Doué dans un instant. La manifestation contre l'antisémitisme demain à Paris divise la classe politique. Certains reprochent aux organisateurs de minimiser le nouvel antisémitisme d'origine islamiste. Nous verrons cela avec Rosalie Lafarge. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se donne une semaine supplémentaire pour trouver un repreneur à l'usine Ford de Blanquefort en Gironde, un dossier suivi par Marie Viennot. La poussée populiste menace les partis traditionnels au Parlement européen. Les prochaines élections européennes devraient se traduire par un affaiblissement du PPE et des sociaux-démocrates, selon des projections publiées aujourd'hui à Bruxelles. Nous en parlerons avec Audrey Tison. Au Royaume-Uni, c'est le Brexit qui divise le parti travailliste. 7 députés du Labour annoncent leur départ du parti. Ils contestent la ligne politique de Jeremy Corbyn. Le reportage à Londres d'Otsoufi. La justice des hommes a tranché. Grâce à Dieu, le film de François Ozon sur la pédophilie dans l'église est autorisé à sortir sur les écrans mercredi. Un film inspiré de l'histoire de plusieurs victimes dans l'affaire Barbarin. Le père Prénat, poursuivi pour agression sexuelle dans cette affaire, avait assigné en référé François Ozon pour obtenir le report de la sortie en salle. Motif invoqué, la présomption d'innocence puisque son procès n'a pas encore eu lieu. Cécile de Kervas-Doué, bonsoir.
Bonsoir.
Le juge des référés du tribunal de Paris a donc rejeté la demande du père Prénat en estimant que le réalisateur avait pris soin d'avertir le public.
Oui, la justice a considéré que les demandes du père Prénat étaient disproportionnées et non nécessaires et qu'elles risquaient de porter atteinte à la liberté d'expression. Ni l'argument d'atteinte à la vie privée, ni celui de la présomption d'innocence du père Prénat n'ont donc été retenus. D'abord, parce que le tribunal a considéré que les faits de pédophilie qui lui sont reprochés sont publics. Le père Prénat est publiquement mis en examen pour attentat à la pudeur avec violence et atteinte sexuelle avec contrainte, menace ou surprise. Cette affaire a depuis longtemps un vif écho dans la presse. Des livres ont paru sur les faits. Le témoignage de ceux qui se présentent comme victimes a été diffusé non seulement via le site de l'association qui les regroupe, mais aussi devant la justice lors du procès du cardinal Barbarin et de certains de ses collaborateurs pour non-dénonciation d'agression sur mineurs. C'était début janvier dernier. Outre la question de la vie privée, l'atteinte à la présomption d'innocence n'est pas non plus retenue par le tribunal de Paris. D'abord parce que le film prend le soin d'afficher plusieurs cartons, précisant que c'est une fiction basée sur des faits réels et que le père Prénat est présumé innocent jusqu'à son procès. Un procès qui n'est pas prévu avant au moins la fin de l'année. Et c'est aussi ce qui a motivé la décision du tribunal, contrairement au film de Claude Chabrol. On se souvient, Noces Rouges, dont la sortie en 1973 avait été retardée de 2 semaines, le temps de la fin du procès du fait divers dont le film s'inspirait. La sortie de Grâce à Dieu de François Ozon ne coïncide pas cette fois avec les débats judiciaires. Suspendre le film, le temps d'attendre la tenue d'un procès, représenterait donc un préjudice disproportionné pour le cinéaste, disent encore les juges, puisque l'affaire Prénat est encore en cours d'instruction et la date d'un procès encore relativement inconnue.
Cécile, une autre procédure judiciaire à Lyon, cette fois, pourrait menacer la sortie de Grâce à Dieu.
Oui, parce qu'une seconde procédure judiciaire en référé est en cours, cette fois devant le tribunal de Lyon. Régine Maire, psychologue et bénévole du diocèse de Lyon, demande à la justice que son nom n'apparaisse plus dans le film de François Ozon. La plaignante, aujourd'hui âgée de 80 ans, a été jugée début janvier aux côtés du cardinal Barbarin pour ne pas avoir dénoncé à la justice les agressions du père Prénat. Dans le film de François Ozon, elle apparaît une quinzaine de fois sous son vrai nom, alors que leurs victimes ont des noms d'emprunt. Régine Maire craint donc aujourd'hui que ce film influence la décision des magistrats qui doit intervenir le 7 mars prochain. Alors que de son côté, le tribunal de Paris n'a pas retenu la même demande du père Prénat de ne pas voir son nom apparaître, le tribunal de Lyon pourrait donc en décider autrement et cela entraînerait le report du film de 2 ou 3 semaines.
Cécile de Kervas-Doué, merci, et le tribunal de Lyon rendra sa décision demain à 17h. De nombreuses personnalités politiques sont attendues demain soir à Paris pour manifester contre l'antisémitisme, rassemblement à l'appel du Parti Socialiste, auquel plusieurs partis de droite comme de gauche se sont associés. Les actes antisémites ont augmenté de 74% l'an dernier et la dernière mobilisation des Gilets jaunes samedi a été entachée par les insultes proférées contre Alain Finkielkraut par des pro-palestiniens. Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Macron ne sera pas présent à ce rassemblement contre l'antisémitisme. L'initiative qui se voulait consensuelle à la base divise en fait la classe politique.
Emmanuel Macron ne marchera pas dans les pas de François Mitterrand, mais on trouvera dans le cortège parisien plusieurs ministres et des représentants de quasiment tous les partis politiques. 19 formations ont signé l'appel, dont les LR, même si pour Geoffroy Didier, leur secrétaire général délégué, les grands rassemblements, ça ne suffit plus.
Il est urgent de passer aux actes, aux sanctions exemplaires et à l'arsenal de mesures que nous prenons pour lutter contre l'islamisme radical qui nourrit aujourd'hui l'antisémitisme.
Le patron des LR, Laurent Wauquiez, sera normalement présent, tout comme l'ancien président socialiste François Hollande. La France insoumise a fini par signer tardivement. La seule signature qui manque finalement, c'est celle du Rassemblement national. Olivier Faure, au PS, n'a pas invité le parti, dont toute l'histoire, dit-il, est liée à la question de l'antisémitisme. Ce qu'approuve la ministre de la Santé, voilà ce qu'Agnès Buzyn a déclaré sur LCI ce week-end après la condamnation par Marine Le Pen de l'agression d'Alain Finkielkraut.
Elle joue un double jeu, elle joue sur l'ambiguïté, elle mange à tous les râteliers. Donc elle est contre l'antisémitisme, mais elle a plein de néo-nazis dans son entourage. Et dès qu'elle peut aller en Autriche ou à Bruxelles avec tous les néo-nazis ou les mouvements d'extrême droite d'Europe et du monde entier, elle y court.
Des propos jugés infâmes par Marine Le Pen, elle promet d'ailleurs d'aller en justice et annonce ce soir que le RN ne participera pas à la manifestation instrumentalisation, fermez les guillemets. Le parti précise dans un communiqué qu'il prévoit un hommage séparé aux victimes des actes antisémites.
Rosalie Lafarge, merci. Et un certain nombre de personnalités de la communauté juive refusent de participer demain à ce rassemblement parisien contre l'antisémitisme. L'avocat Gilles William Goldnadel et la journaliste Noémie Aliwa, par exemple, les critiquent les silences des organisateurs sur les nouvelles formes d'antisémitisme. Alors pour répondre à ce nouvel antisémitisme nourri du conflit israélo-palestinien, plusieurs députés de la majorité, mais aussi des républicains, veulent pénaliser l'antisionisme. Ils travaillent actuellement sur une proposition de loi en ce sens. Il s'agirait de punir par la loi ceux qui contestent l'existence même de l'État d'Israël. Une initiative inutile et dangereuse pour l'historien Denis Péchanski, historien de la Seconde Guerre mondiale et de la mémoire.
L'antisémitisme est condamné aujourd'hui, quel que soit l'habillage. Donc on a les outils pour lutter contre un antisémitisme habillé par l'antisionisme. Le risque avec cette loi, ça va créer, parce que justement il y a une ambiguïté sur le terme, ça va créer une forme de victimologie qui permettra à ceux qui sont antisionistes, antisémites, de se targuer de cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais moi je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste, j'ai le droit d'être antisioniste. Donc là, il y a un danger dans l'efficacité politique de la promulgation d'une loi. Donc il faut rechercher ailleurs, à mon sens, et en particulier la responsabilisation des portails de réseaux sociaux. Ça, c'est la clé absolue, parce que là, vous m'interviewez, si jamais je dis quelque chose, une horreur raciste ou antisémite, je suis condamnable et vous êtes condamnable parce que vous avez relayé ma parole raciste ou antisémite. Si jamais je dis la même chose sur Facebook, je peux être éventuellement poursuivi, mais en revanche, Facebook ne sera pas poursuivi. Et donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur la responsabilité des réseaux sociaux, des portails, des vecteurs qui acceptent finalement n'importe quel propos.
Propos recueillis par Stéphane Robert et retrouvés sur franceculture.fr, l'interview en longueur de Denis Péchanski dans le dernier journal de 12h30 sur France Culture. L'antisémitisme qui est aussi au cœur du procès de Mehdi Nemmouch à Bruxelles, le djihadiste français jugé pour la tuerie du musée juif de la capitale belge en 2014. Le procès a été brièvement interrompu aujourd'hui. La cour d'assises a récusé un juré qui avait évoqué l'affaire avec une personne extérieure au débat. L'audience a repris cet après-midi. La cour a entendu la première plaidoirie de la partie civile, l'avocat de la mère de l'une des victimes. Le compte-rendu d'Antoine Marette.
Maître Christian Dahl ne représente la mère d'Alexandre Strens, l'un des employés du musée juif de Belgique, l'une des quatre victimes de la tuerie. L'avocat débute sa plaidoirie par une citation, celle de Robert Badinter, lors de la commémoration de la rafle du Veldiv en 1992. En réponse à des sifflets, l'ancien garde des Sceaux avait répondu la voix pleine de colère « Les morts nous écoutent quand on parle d'eux ». J'ai la même colère après 7 semaines de procès, affirme Maître Dalne. Il faut laisser les victimes en paix. Ce procès manque cruellement de chaleur et d'humanité. Cette colère vise les avocats de la défense qui, dès le premier jour, a commencé à plaider, selon lui, la défense qui a confisqué ce procès. On a fait le procès des victimes comme si on devait leur faire porter une responsabilité dans la mort qui a été la leur. En ligne de mire, la théorie du complot développée à l'envi par la défense impliquant le Mossad, le outing post-mortem de l'une des victimes. On a également fait le procès des témoins, ajoute l'avocat. Les anciens otages français en Syrie, en évoquant leur torture qualifiée de prétendue, en soulignant que leur cellule sous Daesh était 4 fois plus grande que celle de Medine Mouche. On a enfin fait le procès du procès, en s'attardant sur le refus d'entendre les 150 témoins réclamés par la défense. Maître Dalne se tourne vers les jurés. Vous êtes investi d'une mission difficile. Jugez la vie d'un homme et les actes qui lui sont reprochés. Ils sont terribles. Medine Mouche a porté atteinte aux valeurs fondamentales de notre société, la vie et la liberté.
Antoine Marette, envoyé spécial de France Culture à Bruxelles. Dans l'actualité sociale, les syndicats de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde ont gagné une semaine de plus. Ils étaient reçus aujourd'hui par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui croit toujours en la possibilité d'une reprise de l'usine que veut fermer Ford. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
Bruno Le Maire promet de multiples négociations cette semaine pour trouver un repreneur.
Oui, et ce repreneur, il s'est présenté depuis quelques mois déjà. C'est un industriel belge du nom de Punch qui a déjà repris avec succès une usine que General Motors voulait fermer à Strasbourg. Le ministre des Finances et les services de l'État et des collectivités locales, présents aussi à cette réunion, soutiennent ce projet de reprise depuis qu'il existe, ce qui permettrait de sauver 350 emplois sur les 850 de l'usine, soit la quasi-totalité des emplois, car plus de la moitié des salariés de cette usine vont bénéficier de pré-retraite, quoi qu'il arrive. Mais il y a 2 obstacles à ce projet. Le premier, c'est qu'il n'a pas encore fait la preuve de sa viabilité économique. Si l'usine de Blanquefort continue à fabriquer des boîtes de vitesse en dehors du giron de Ford, à qui les vendra-t-elle? D'après les syndicats, le ministre a dit avoir personnellement contacté les constructeurs français, PSA, Renault, pour le moment sans succès, mais la semaine devrait permettre de poursuivre les tractations. Le deuxième obstacle, c'est Ford qui, pour le moment, refuse le plan du repreneur Punch. Un nouveau plan va donc être proposé par Punch à Ford aujourd'hui et les discussions reprendre. De son côté, Bercy serait, d'après les syndicats, toujours prêt à ce que l'État achète temporairement l'usine de Blanquefort avant de la céder à Punch, ce qui dégagerait Ford de ses obligations juridiques en cas d'échec de la reprise. Or, c'est une exigence forte du constructeur automobile américain. Toute cette semaine, il va donc y avoir des discussions entre Ford et l'État, Punch et les syndicats, Punch et l'État, l'État et les syndicats. Des syndicats qui sont unanimes pour dire qu'ils n'ont pas retrouvé l'espoir, mais simplement gagné une semaine d'attente. Ils ont rendez-vous à Bercy lundi prochain.
Marie Viennot, merci. Y aura-t-il une majorité claire au Parlement européen à l'issue des prochaines élections européennes? On peut en douter à la lumière des projections publiées aujourd'hui à Bruxelles par les responsables du Parlement. Il s'agit en fait d'une compilation des derniers sondages sur le scrutin prévu du 23 au 26 mai prochain. Audrey Tison, bonsoir.
Bonsoir.
Ces projections montrent un affaiblissement des 2 grandes formations du Parlement européen, le PPE à droite et les sociaux-démocrates à gauche. Affaiblissement en raison notamment de la percée des populistes.
Oui, mais pas seulement. Prenons d'abord les sociaux-démocrates. Le groupe perdrait 1/3 de ses eurodéputés. Il pâtit notamment du Brexit. 20 travaillistes quittent le navire. Mais les socialistes sont aussi en recul en Italie, en Allemagne et en France. Avec 19% des élus, le groupe resterait tout de même la 2e force politique du Parlement. Un hémicycle toujours dominé par le PPE, Parti Populaire Européen de droite, qui perdrait quelques plumes, 34 députés en moins. Les sondages les voient reculer notamment en République tchèque ou en France avec les Républicains. Conclusion, PPE plus sociaux-démocrates ne serait plus suffisant pour faire une majorité. Le parti de droite va devoir former une nouvelle coalition, prévient Emmanuel Rivière du cabinet Kantar.
Est-ce qu'il reconstitue une coalition centrale? Ça pourrait être un scénario si vraiment on en revenait à la question existentielle, pour ou contre l'Europe. Après, l'électorat PPE, dans la plupart des pays européens, partage un certain nombre d'interrogations autour de la question migratoire, autour des questions d'identité, avec des partis qui siègent, disons, à leur droite, les partis conservateurs.
Et tous ne sont pas prêts à s'allier avec l'extrême droite, notamment l'Europe des nations et des libertés, le groupe groupe qui progresserait le plus grâce à la Ligue italienne de Matteo Salvini et au Rassemblement national de Marine Le Pen. Le plus probable reste une alliance avec les centristes de l'Alliance des libéraux et démocrates, le groupe ALDE qui a le vent en poupe. 7 eurodéputés supplémentaires dans cette projection, sans compter les 20 sièges que pourrait apporter La République en marche. Les centristes pourraient être les faiseurs de roi, ou plutôt les faiseurs de majorité.
Audrey Tison, merci. Rappelons qu'en France, nous voterons le dimanche 26 mai prochain. C'est aussi l'une des inconnues du scrutin européen. Les Britanniques éliront-ils des députés au Parlement de Strasbourg alors que le Brexit reste pour l'instant programmé au 29 mars prochain? Un report de la date butoir pourrait obliger le Royaume-Uni à participer à l'élection. Le Brexit qui divise le parti travailliste à Londres, 7 députés du Labour ont annoncé aujourd'hui leur départ du parti. Ils contestent la ligne politique du chef Jeremy Corbyn. Le reportage d'Aude Soufi.
Depuis des mois, l'ambiguïté de Jeremy Corbyn sur le Brexit suscite la gêne au sein du parti et en dehors. Personne n'arrive vraiment à comprendre si le leader travailliste est pour ou contre, ni quel type de relation il souhaite avec l'Union européenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mike Gapes, comme 6 autres de ses collègues, a décidé de reprendre son indépendance politique.
Je suis furieux que la direction travailliste soit complice de faciliter le Brexit, qui va causer un grand dommage économique, social et politique à notre pays.
Le chef du parti travailliste est aussi critiqué pour sa gestion des accusations de racisme et d'antisémitisme portées contre certains de ses membres. Un parlementaire avait d'ailleurs déjà démissionné fin août pour ce motif, mais depuis, peu d'évolutions notables dans la formation de gauche. La députée Luciana Berger a donc elle aussi claqué la porte du parti ce matin, dénonçant une culture du harcèlement.
Les valeurs que je chéris ont été régulièrement et constamment violées, attaquées et mises à mal. Je ne peux pas rester dans un parti après avoir tiré l'écœurante conclusion qu'il est devenu institutionnellement antisémite.
Ces 7 députés vont maintenant former leur propre groupe au Parlement, ce qui ne devrait pas changer l'équilibre à la Chambre des communes, mais ils appellent d'autres de tous bords politiques à suivre leur exemple et à les rejoindre.
Aude Soufi, correspondante à Londres. Au Venezuela, le président Maduro ne semble pas du tout disposé à assouplir sa position. Bien au contraire, le régime bolivarien a refoulé hier 4 députés européens à l'aéroport de Caracas, 4 élus invités par le président autoproclamé Juan Guaido pour évaluer la situation dans le pays. Ce soir, ces eurodéputés dénoncent l'attitude de Nicolas Maduro. On fait le point avec Bastien Munch.
La délégation des 4 eurodéputés est bien arrivée aux frontières du Venezuela, mais leur voyage s'est arrêté là. Les services de douane ont confisqué leurs passeports et leur ont refusé l'entrée dans le pays. Esther Delange est députée européenne au sein du Parti populaire européen, le PPE. Elle faisait partie de la délégation.
Quand on nous a refusé l'entrée à la frontière, on a voulu savoir pourquoi. On aurait été la première délégation internationale à rencontrer le président Guaido. On avait été invité par le Parlement et dans ces conditions, c'est rarissime de ne pas être autorisé à entrer. Donc on voulait connaître la raison, mais on ne nous a jamais donné d'explication.
La délégation est donc de retour en Europe aujourd'hui sans avoir rencontré le président autoproclamé Juan Guaido. Mais pour Esther Delange, cette expulsion est un mal pour un bien.
Le régime de Maduro semblait divisé sur l'attitude à adopter. Certains pensent maintenant que cette expulsion est pire pour eux parce que ça met plus en lumière la situation dans le pays. Et je pense qu'ils ont raison. Ce n'est jamais agréable de se faire refouler, mais au moins, on aura permis d'attirer l'attention sur la terrible situation au Venezuela.
Les 4 eurodéputés attendent maintenant que l'aide humanitaire apportée par les États-Unis passe la frontière depuis la Colombie. Une aide prévue pour ce samedi. Et l'eurodéputé Esteban González Pons l'annonce aujourd'hui. La délégation de députés européens tentera à nouveau de passer la frontière en même temps que cette aide humanitaire.
Bastien Munch, merci. En Syrie, 2 attentats à la voiture piégée ont fait 15 morts aujourd'hui à Idlib. Attentats non revendiqués pour l'instant. La province d'Idlib est la dernière encore contrôlée par la rébellion. En l'occurrence, des groupes djihadistes autres que Daesh. Du côté de la frontière irakienne, l'État islamique est désormais assiégé dans un minuscule périmètre de moins d'un kilomètre carré. Les forces démocratiques syriennes, soutenues par les Américains, sont sur le point de lancer l'ultime assaut sur la dernière enclave de Daesh en territoire syrien. Retour en France avec cette information pratique. Les TGV circulant dans le sud-est accusent depuis ce matin jusqu'à 3 heures de retard en raison d'une panne électrique dans Lyon. La ligne à grande vitesse, notamment au départ de la gare de Lyon à Paris, est toujours perturbée. Le trafic a repris progressivement sur une voie, mais un retour à la normale n'est pas attendu avant demain matin. Le temps demain restera calme en raison du puissant anticyclone qui protège la France. Une petite perturbation arrivera malgré tout à traverser le pays, de la Manche au nord-est, en donnant quelques pluies éparses. Partout ailleurs, le soleil s'imposera rapidement. Température minimale, quelques gelées en pleine, de 1 à 9 degrés ailleurs. Les maximales seront comprises entre 9 et 17 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Julien Loquet.